Culture sans frontières.
Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et bonnes fêtes de fin d'année où que vous nous écoutiez dans le monde. Suite aujourd'hui de notre entretien avec Bruno Decharme, réalisateur, collectionneur et propagateur de l'art brut, qui possède entre autres de nombreuses œuvres d'artistes tchèques. Avant d'arriver à l'art brut, Bruno Decharme a été assistant du réalisateur français Jacques Tati. Je lui ai donc demandé de revenir sur ce parcours original et surtout quel était le lien entre Tati et l'art brut.
Alors ça, c'est tout un, en fait, c'est tout un parcours. Enfin, bon, pas forcément, il n'y a rien d'exceptionnel, évidemment. Bon, c'est d'abord un parcours universitaire où donc j'ai suivi quelques années des études de philo. Puis j'entendais des gens qui disaient des choses extrêmement intéressantes, tout à fait passionnantes. Mais tout ça, ça restait pour moi un petit peu théorique puisque par définition, tous ces sujets, qu'on aborde en philosophie, en psychanalyse, en fait, etc. C'est toujours très, 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 très théorique. Et puis j'ai découvert, comme ça par hasard, des expositions d'art brut, mais il y a évidemment fort longtemps de ça. Et là, tout d'un coup, ça a pris sens. C'est-à-dire ces images telles que je les voyais faisaient sens par rapport à des réflexions théoriques que je pouvais comme ça suivre au cours de mes études universitaires. Et donc tout d'un coup, je me suis senti beaucoup plus proche des images, de ces œuvres, que de toute la partie théorique, encore qu'elle continue à alimenter mon intérêt sur le sujet parce qu'elle m'aide à comprendre. Alors le lien avec le cinéma, j'ai toujours été, c'est l'image quoi. Et puis moi, ce qui m'intéresse personnellement, et ça je l'ai appris de Tati, bien que lui l'exprime alors radicalement d'une façon opposée à la mienne, puisqu'il est dans une espèce de dépure et de quasi-distanciation maniaque, quasi-obsessionnelle et à la limite d'une certaine forme aussi de folie, je trouve. Bon, c'est génial, hein, bien entendu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler sur les rythmes, de travailler sur les sons, ça que j'ai appris de lui, évidemment, mais d'essayer de trouver traduire à travers les films que je fais, essentiellement des documentaires en général, toute la rythmique qui s'exprime par exemple dans l'art brut, où il y a vraiment il y a des mises en abîme rythmiques que je trouve complètement fascinantes quoi. Et Tati, c'est le génie du rythme, c'est vraiment le grand maître du rythme, alors qu'il exprime encore une fois dans la distance, dans l'épure, hein, mais c'est ça vraiment. Et puis la maniaquerie du passé, moi je me souviens repasser avec lui. Moi je l'ai connu une époque, malheureusement la dernière période de sa vie, puisque sa grande période était avant, quand j'étais tout gamin, mais donc je l'ai connu pendant 5-6 ans, la dernière période de sa vie, où il avait des projets cinématographiques, mais bon, ils ont passé des journées entières sur des scènes qui allaient probablement au résultat durer une minute, quoi. Donc c'est une espèce d'obsessionnel, comme c'est pas possible d'être obsessionnel. Donc ça, voilà, en fait, c'est tout ça, je pense, s'est combiné à un moment dans ma vie. Et puis, tout ça a fait écho, quoi. Maintenant, je sais pas très, très, très bien en quoi, comment ça se ficelle, comment ça se tricote, tout ça. Mais il y a une espèce de cohérence pour moi, voilà.
Vous parlez justement du tricot, c'est quoi le fil rouge de toute votre collection? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sous-tend toutes les œuvres que vous avez? Parce qu'il y a quand même à peu près 200 artistes dans la collection.
Oui, oui, oui. Alors... évidemment, la question est complexe puisque, par définition, dans l'art brut, ce qui définit le corpus de l'art brut, c'est l'addition de tous les artistes, puisqu'en commun, ils n'ont rien en commun. Sauf, probablement, d'avoir un espèce de langage tellement individuel et tellement personnel qu'ils se distinguent de ce que je disais tout à l'heure, de tous les autres courants artistiques. Moi, ce qui me passionne vraiment essentiellement, finalement, si je devais garder un noyau dur, ce serait vraiment tous ces artistes qui sont, les grands inspirés divins, quoi. C'est-à-dire ces gens qui sont capables, tous les grands messagers de Dieu, voilà. Ceux qui se sentent devoir répondre d'une certaine responsabilité du monde. Parce que je pense qu'on est tous individuellement, chacun à notre petit niveau, responsables du monde. D'où la nécessité morale, éthique. C'est-à-dire qu'on est responsable, quoi qu'on fasse dans la vie. Donc, vis-à-vis de ça, on se doit, on se doit d'avoir une certaine éthique. Et je pense que ces gens, Koschek par exemple, c'est les gens qui poussent jusqu'à l'extrême, je dirais, une sorte de responsabilité vis-à-vis du monde. Alors eux, ils ont la conviction d'en être les responsables, puisque Koschek, par exemple, se sent responsable des catastrophes météorologiques qui peuvent se passer à l'autre bout de la planète. Mais quelque part, il a raison. C'est une métaphore. Pour lui, c'est pas une métaphore, c'est une réalité hein, qui ressent dans sa chair et dans sa création. Pour nous, on le ressent comme une métaphore, mais je pense que cette idée de responsabilité, elle est profonde. Et c'est ça qui est touchant dans l'art brut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tricherie, qu'on n'est pas dans le, on pipote pas quoi. On n'est pas dans la fabrication d'une on n'est pas malicieux.
Cette responsabilité est d'autant plus actuelle qu'aujourd'hui, on commence vaguement, certes, mais enfin, en tout cas, il y a des paroles qui sont dites dans ce sens-là, à dire que finalement, on est en train de mener ce monde à la catastrophe, ne serait-ce que par la pollution et bien d'autres choses. Eux, ils l'expriment finalement d'une autre manière par leur création.
C'est pour ça que je pense que ce sont vraiment des visionnaires. Mais vraiment, je pense que Koschek est un grand visionnaire. Et je pense qu'il faut les prendre vraiment au sérieux. C'est-à-dire que c'est pas des... Il n'y a pas de paternalisme là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter ce qu'il raconte. Alors, pas forcément au pied de la lettre, mais je pense qu'il nous enseigne fondamentalement des choses très 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 importantes sur nous. Et c'est ça qui me bouleverse, quoi. C'est qu'effectivement, ce que nous raconte Koschek, même si ça a un sens métaphorique, il n'empêche que, pas avant tout le monde, mais enfin, il dit des choses, comme vous le précisez, qui nous enseignent sur la planète et ce qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire qu'on court à la catastrophe. Et à la catastrophe météorologique. C'est-à-dire que les effets pervers de la pollution, tout ce qu'on peut imaginer, ont des effets météorologiques, puisque tout le monde le sait, les océans, le pôle nord, le pôle sud sont de fondre. Donc c'est évident qu'on va vers des tornades, c'est terrible à dire, mais c'est vrai. Et lui, c'est ce qu'il nous raconte, monsieur. Mais pas d'une. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il en a la conviction quasi
intime.
C'est pas un effet pour lui. Là, pour le coup, métaphorique et poétique.
Mais c'est pas un effet de style, quoi.
Non, il n'y a pas d'effet de style. C'est une conviction quasi scientifique. Il a mis au point un système qui nous le démontre.
Est-ce que vous pourriez décrire un peu à quoi ressemble justement sa création pour les personnes qui pourraient pas le voir?
Alors, c'est quelqu'un qui passe ses journées, enfin, à une époque de sa vie, parce qu'en ce moment, je crois que c'est moins le cas, et tant mieux pour lui, quelque part, parce que ça veut dire qu'il y a moins de douleurs. Mais il pouvait passer une semaine devant sa fenêtre à noter sur des petits carnets tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il voyait. Le bruit des oiseaux, le passage d'une voiture, l'évolution des nuages, le passage des nuages, et il essayait de tout noter sur des petits carnets. Alors souvent, ces dessins représentent des espèces de nuages, mais auxquels il ajoute des espèces de formules chimico-alchimiques, je dirais, des oiseaux aussi qui dessinent, des sons qu'il exprime avec des bangs, des boongs, etc. Donc il note. Donc ce sont des espèces de dessins qui relèvent du relevé. Et c'est ça qui est complètement fascinant, c'est qu'à la fois ce sont des productions artistiques qui sont extrêmement belles si on les regarde comme ça, et en même temps qui sont vraiment des notations de ce qu'il a pu entendre et voir pendant des semaines derrière sa fenêtre. Et avec la conviction pour lui que quand il note tout ça, il arrive à contenir tout ça. C'est-à-dire que quelque part, il empêche que la catastrophe arrive. Alors c'est à la fois très très beau, c'est très émouvant, c'est plein de sens. C'est vraiment des histoires incroyables qu'il nous raconte. C'est vraiment de la création, c'est plus de l'art, c'est de la création. C'est-à-dire l'art brut, c'est presque, je dirais, que c'est le synonyme de art brut, c'est la création. Et c'est vrai que c'est très près d'une certaine vision mystique, mais pas mystique au sens d'une religion. Hein. C'est vraiment un lien à la création, qu'il y a un dieu ou pas, peu importe, mais la création du monde. Donc la conviction qu'on a la responsabilité vis-à-vis de cette création.
Juste pour terminer, de manière générale sur l'art brut. Alors ces dernières années en République tchèque, il y a une place beaucoup plus importante qui a été accordée à l'art brut, notamment par le travail de Terezie Zemanková, que les auditeurs ont déjà entendu, notamment, dont la grand-mère, Anna Zemanková, était également une créatrice d'art brut. Vous collaborez ensemble, Bruno Decherme et Terezie Zemanková. En France, vous êtes en tout cas, à coup sûr, l'un des plus grands représentants à ce niveau-là, collectionneur, promoteur de l'art brut. Comment est-ce que les choses évoluent à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a un intérêt, en tout cas, en France en particulier? Et puis, comment jugez-vous l'intérêt ici en République tchèque?
Alors, il est certain qu'en ce moment, depuis comme ça quelques années, bon, probablement notre travail et puis d'autres, hein, on l'aurait fait, enfin, je le suppose, à travers toutes les expositions qu'on a pu organiser ici et ailleurs. Mais l'histoire de l'art est toujours une histoire un petit peu particulière, parce qu'évidemment, elle est faite au départ par des historiens de l'art, par des gens du Sérail, et il y a eu depuis que l'art brut a été un peu conceptualisé, hein, puisque l'art brut date bien avant Dubuffet. Dubuffet, a conceptualisé l'existence d'œuvres évidemment existantes préalablement à lui. Donc ça date depuis que l'humanité est humanité, il y a de l'art brut évidemment. Mais il y a toujours eu une espèce de mépris, ou au mieux une condescendance, sur ces gens qui sont des fous, des originaux, etc. Alors, c'est pas uniquement parce qu'on se moquait d'eux, c'est que je pense que fondamentalement, ça met tellement en porte-à-faux la pensée, mais même la pensée, la philosophie, l'histoire de l'art, que forcément, il y a eu des grandes réticences de la part des théoriciens de l'art en particulier. Donc, ils regardaient ça toujours comme avec un espèce d'œilleton, pas très approbateur, bon voilà, parce que ça distorbait un peu leur manière de penser. Et puis je crois que ce qui s'est passé tout simplement, et c'est pour ça que je suis collectionneur et que j'expose et que je garde pas cette collection pour moi, c'est que le fait de montrer, bah forcément il y a un public, il y a une rencontre avec le public. Et là, ce qui est quand même vraiment, et ça je l'ai pu le tester à travers toutes les expositions qu'on a organisées au Japon, aux États-Unis, ici et ailleurs, il y a un véritable intérêt du public. Mais vraiment, c'est à chaque fois des succès. Enfin, des succès de tout ordre, hein. C'est pas forcément uniquement en entrée, mais vraiment, ça, voilà. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont aussi au niveau des historiens de l'art et des gens qui réfléchissent à tous ces sujets, qui s'y sont intéressés. Et il y a une nouvelle génération, et ça, je le note, alors là, quasi quotidiennement, de plus en plus d'étudiants en histoire de l'art, en philosophie, en sciences humaines, etc., qui font leur thèse de doctorat sur l'art brut, et vous allez en avoir des bibliothèques entières qui vont sortir, et ça c'est symptomatique, parce que ça veut dire que vraiment, c'est un sujet qui passionne de plus en plus les gens, quoi. Donc il se trouve que voilà, le pari que j'avais fait une époque, moi et d'autres, hein, c'était vraiment de montrer ça au public. J'avais quasiment abandonné d'essayer de convaincre les instances un petit peu comme ça officielles, mais vraiment de faire nos expositions. Et puis bah le retour de gentil bâton, c'est que maintenant quasiment tous les grands supports de médias en parlent, et que voilà, c'est en train de rentrer dans le corpus des intérêts des médias, quoi. Alors bon, quelque part ça m'intéresse pas forcément, c'est pas ça qui m'intéresse, mais en même temps c'est symptomatique d'un intérêt du public. C'est le public qui m'intéresse, bien sûr.
C'est le réalisateur et collectionneur français d'art brut Bruno Decharme. Retrouvez l'intégralité de cet entretien en deux parties sur notre site internet, le www.radio.cz. Merci de votre fidélité. Bon vent à Roy.
Deuxième partie de cette émission préparée pour les fêtes de Noël, nous allons parler de la marionnette avec Nina Malíková, directrice de la section tchèque de l'Union internationale de la marionnette. La tradition du théâtre de marionnettes dans les pays tchèques est longue et belle. Voudriez-vous évoquer quelques points forts de cette histoire ?
La tradition, elle commence au commencement du XXe siècle. C'était surtout les amants de la marionnette, les amoureux de la marionnette qui ont un peu augmenté cet art dans notre pays. Et c'était un peu lié avec la constitution de notre République tchèque. Et au commencement, c'était surtout les pédagogues et c'était les non-professionnels, les artistes qui ont fait augmenter cet art ici. Il y avait on est très fiers qu'il y avait un certain temps à la République tchèque, dans la nouvelle République tchèque, c'est-à-dire 1918, après 1918, qu'il y avait 3000 ensembles d'amateurs qui ont joué la marionnette. Et aussi, il y avait un grand mouvement de la littérature, de la fabrication des marionnettes et des ensembles qui ont joué la marionnette. On a joué la marionnette, pas seulement dans les salles, dans les salles de la ville, mais aussi dans les familles. Alors, ça a commencé comme ça. Mais la tradition elle-même, ça commence au 18e, 19e siècle. Mais c'était plutôt les marionnettistes tchèques qui étaient les apprentis des marionnettistes d'Italie, d'Angleterre, qui ont assisté aux productions des marionnettes dans le territoire après tchèque. Mais après la fondation de notre État, c'était aussi le mouvement, on peut dire, mais c'est mauvais comme mot, nationaliste, parce que c'était un peu quelque chose typiquement tchèque. La marionnette a servi aussi pour présenter l'art dramatique, même dans les lieux où le théâtre dramatique ne pouvait pas être présenté, ne pouvait pas exister. Alors, on peut dire que c'était tellement large, cette influence de la marionnette comme l'art dramatique après 1918, que nous avons vraiment donné cette impression, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier, que la Bohème, la Tchéquie, enfin la République tchèque, ça c'est le Mecca de marionnettisme. Et il n'y avait pas le théâtre professionnel avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait le seul ensemble à Plzeň. C'était Monsieur Joseph Skupa qui a fondé le premier théâtre professionnel, vraiment, et qui a aussi créé les deux personnages typiques qu'on connaît dans l'Europe, c'est Spejble et Hurvinek. C'est le père et le fils, ce sont les deux personnages qui sont devenus après les personnages, disons, populaires. Ils sont quelque chose comme, c'est peut-être exagéré, mais comme Guignol en France ou comme Casper en Allemagne. Mais ce sont les deux personnages qui sont créés par un artiste, qui sont les personnages artificiels, enfin, d'art. Et ce moment, enfin, d'un grand développement de théâtre de marionnettes en République tchèque, qui a donné cette impression à l'Europe, a signifié aussi un grand événement qui était la fondation d'une Union internationale de la marionnette, qui était créée à Prague en 1929 déjà. Et cette union qui est devenue internationale et qui en ce moment-là a plus que 67 pays qui sont organisés, était fondée à Prague même. Et c'était parce qu'à Prague étaient invités les marionnettistes du monde entier et qui se sont décidés de créer cette union. Et cette union, en ce moment-là, qui a un secrétariat général en France, dans Charleville-Mézières, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, est devenu un organisme vraiment là sont organisés les pays de tous les continents en ce moment-là. Donc on est très fiers que c'était surtout Prague et les marionnettistes tchèques dont l'impulse était tchèque pour faire ce grand organisme. Et on est très, très fiers que c'était la première organisation théâtrale comme ça qui existe jusqu'à nos jours.
Donc, comment se porte la marionnette, le marionnettisme tchèque aujourd'hui, est-ce un domaine qui est réservé en Tchéquie plutôt à des troupes professionnelles ou bien à des compagnies d'amateurs?
Nous avons, surtout après 1990, il y a les théâtres professionnels, il y en a 10 en République tchèque, mais il y a les groupes indépendants qui sont vraiment, qui ont fleuri après 1990 et qui sont très, 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 très intéressants. Ce sont Buhti à l'Otke, ce sont le théâtre Licheng à Brno, il y a le théâtre Continuo, par exemple, au sud de la Bohème. Mais ce que je peux dire, les derniers temps, c'est surtout le théâtre non professionnel, c'est-à-dire les amateurs, comme nous disons, qui commencent à être très intéressants, parce qu'ils ne sont pas tellement liés avec l'appui commercial, de commerce. Ils ne sont pas tellement obligés de faire les choses que le marché demande. Oui, ils peuvent faire plus de découvertes parce qu'ils jouent le théâtre de marionnettes. Ce sont les troupes, par exemple, d'étudiants, les étudiants de l'université, ce qui est curieux, qu'ils ont trouvé la marionnette comme un l'instrument de l'expression intéressant. Et qu'ils ont un peu dramaturgiquement choisi les chemins pas tellement, comment le dire, qui sont intéressants.
On les trouve plutôt dans les grandes villes ou dans les régions?
C'est aussi dans les régions, ce qui est curieux. On trouve, il y en a quelques-uns à Prague. Mais maintenant, les régions qui sont intéressantes au point de vue de la marionnette, c'est la région de l'ouest et de l'est de la Bohème.
Comment voyez-vous l'avenir du théâtre de marionnettes? De la marionnette survivra-t-elle? Persistera-t-elle?
Oui, ça c'est intéressant parce que justement, les gens disent le théâtre de la marionnette, peut-être il est en crise comme il y avait l'opéra et ballet il y a un certain temps. Je pense que la marionnette ne peut pas être en crise. Elle sera toujours intéressante parce qu'elle représente d'un côté quelque chose de très humain et d'autre côté, elle a toujours quelque chose qui est inspiratif. Ça, c'est nos idées que nous pouvons exprimer à travers un objet qui peut nous ressembler. Mais en crise peuvent être les théâtres des marionnettes. Les grands théâtres, les grandes entreprises comme les théâtres des marionnettes. Mais la marionnette ne peut pas être en crise. Je crois qu'elle y sera toujours. J'ai traduit il y a 2 ans un livre de Charles Magnen. C'est un auteur français de la moitié du 19e siècle. Et il finit son histoire par les mots. La marionnette et le polichinelle. Le polichinelle, ça ne peut pas mourir. Ça sera ici toujours pour nous faire rire et pour nous faire pleurer aussi.
La marionnette est liée à une grande partie de votre parcours professionnel. Cet amour de la marionnette, vous l'avez hérité de votre père ou bien est-ce que c'est venu un peu plus tard?
Tout le monde attendait de ma part que je vais me consacrer à la marionnette et c'est un peu dur à dire, mais j'ai détesté la marionnette. Parce que mon père, il était toujours tellement occupé par la marionnette, pas détesté, je la méprisais. Et c'était là, après la mort de mon père, que j'ai commencé d'abord à lire ce qu'il a écrit, ce qui est honteux, mais c'est vrai. Et j'ai commencé pas à pas découvrir ce monde qu'il a tellement encharmé. Et maintenant, je suis devenue vraiment quelqu'un qui l'a défendre. C'est très curieux que c'est dans la deuxième moitié de ma vie qui est à s'excuser auprès de la marionnette, que je l'ai tellement méprisée et que je commence à vraiment m'admirer.
Thank you.
C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission préparée par l'équipe de Radio Prague. Je vous dis au revoir. À demain. Nasledanou.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 kHz. A las 21.30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz. A la 1.30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.